je reviens dans la maison du Seigneur vous rencontrer. Ça faisait quand même un peu longtemps, la dernière fois que j'étais là. Et je suis reconnaissant au Seigneur qui me permet d'être là. Merci infiniment au pasteur Philippe pour l'invitation qui m'a été adressée. Et merci à Samuel de ton service. Il est venu nous chercher jusqu'à Montreuil ce matin. Je vais parler de Samuel Taille pour nous permettre d'être ici. Sois béni, frère. En tout cas, nous sommes reconnaissants au Seigneur d'être là. Je ne suis pas seul, vous l'avez constaté. Je suis accompagné ce matin de François, Eline et du frère Arnold, que la plupart sûrement d'entre vous connaissent. Alors, quand j'ai vu le texte que Philippe m'a partagé, j'ai dit, ah, waouh, ça. Alors, pourquoi ce texte m'est réservé? Après, ce matin, Philippe me dit, écoute Samuel, c'est pas expressement fait. Je sais que c'est pas expressement fait. En tout cas, je suis reconnaissant au Seigneur de pouvoir partager sur ce texte-là. Et comme vous l'avez constaté, dès la lecture, on voit effectivement que ce texte nous présente une confrontation. Une confrontation entre le Seigneur Jésus-Christ et les pharisiens. Quand les pharisiens abordent le Seigneur Jésus-Christ, ils ne l'abordent pas avec une bonne intention, une intention saine. Le texte dit clairement qu'ils l'abordent pour lui tendre un piège. En fait, voilà, ils voulaient lui tendre un piège. Mais ce qui est intéressant, c'est que la question que ces pharisiens posent au Seigneur Jésus-Christ est une question d'école. C'est une question d'école. Un homme a-t-il le droit de divorcer de sa femme? Et je suis sûr que c'est une question qui suscite encore débat, n'est-ce pas? Ça suscite débat au sein des milieux chrétiens, que ce soit les catholiques, les protestants, les évangéliques. Est-il possible ou est-on permis, un chrétien peut-il divorcer? Une chrétienne peut-elle divorcer? Je crois bien que c'est le texte de Deutéronome chapitre, je vais avancer, voilà, c'est Deutéronome chapitre 24, verset 1, qui semble être au cœur de cette question que les pharisiens posent au Seigneur Jésus-Christ. Ce texte dit, supposons qu'un homme ait épousé une femme et que plus tard, il cesse de la considérer avec faveur parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher. Alors, il rédige une lettre de divorce, il la lui remet et la renvoie de chez lui. Ce texte permettait donc à l'homme de divorcer ou de renvoyer sa femme s'il trouvait quelque chose d'infâme, quelque chose d'inconvenant ou quelque chose de honteuse chez sa femme. La question c'est, que signifie cette chose d'infâme ou de honteuse? Oui, deux écoles rabbiniques donc se partageaient, se disputaient sur le sens réel de ce que ce texte appelle quelque chose de honteuse ou quelque chose d'inconvenant. La première école, vous le savez, c'est l'école du rabbin Shammai qui restreignait donc cette chose honteuse à l'infidélité. Et la seconde école, l'école de Hilliel, donc étendait cette chose à tout ce qui pouvait, que le mari pouvait juger d'inconvénient. Tout ce que l'époux avait le droit de juger d'inconvénient. Rabbi Agiba disait d'ailleurs, je cite, « Même s'il trouvait une autre femme plus belle que la sienne, il peut divorcer. » Car il est écrit, « Si elle ne trouve plus faveur à ses yeux. » C'est intéressant, n'est-ce pas? On a trouvé une belle femme, plus belle que votre épouse. Bah, on la met de côté et puis voilà, on s'en va parce qu'elle n'a plus. Elle n'a plus. Voilà. Les pharisiens, dans ce texte, donc, voulaient en quelque sorte que Jésus-Christ prenne position, suivant donc l'une ou l'autre interprétation qui était donc donnée. Par ces deux écoles. Mais que fait le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il fait? Il va profiter de cette question-là pour donner, à mon avis, un enseignement complet sur le mariage. Un enseignement complet sur le mariage. Et j'ai choisi une image. Si vous observez bien cette image-là, ben vous avez tout l'enseignement que je veux donner ce matin sur le mariage. Et peut-être que je vais m'asseoir, vous laisser le temps d'observer, et après moi je reviendrai pour faire la conclusion. Et lorsque vous aurez fini d'observer et de tirer toutes les conclusions de cette image-là, je reviendrai pour non, je suis en train de blaguer. En fait, Jésus nous présente dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure le plan de Dieu pour le mariage. Le plan de Dieu pour le mariage. Ainsi, pour répondre donc à cette question que lui posent les pharisiens, Jésus les renvoie ici à ce qu'on appelle l'institution primitive du mariage. Il commence par replacer le mariage dans le plan initial de Dieu. Quel est ce plan initial de Dieu? Comment est-ce que Dieu conçoit le mariage? La première chose que Jésus fait ou que Jésus nous révèle sur le mariage, c'est en fait son origine. Le mariage n'est pas, non, ce n'est pas un simple accident de l'histoire. Le mariage est encore moins le fruit d'une invention humaine. Le mariage remonte à la création même de l'humanité par Dieu. Par Dieu. C'est bien ce que Jésus rappelle au verset 6 du texte qui nous a été lu tout à l'heure. En faisant allusion au commencement de la création, c'est bien au texte fondateur du mariage que le Seigneur Jésus-Christ ramène ses interlocuteurs. Et ce texte, c'est notamment Genèse chapitre 1, verset 27 et Genèse chapitre 2, verset 24. Qu'apprend-on de ces deux textes-là? Au moins deux choses. Au moins deux choses. Le premier texte, Genèse chapitre 1, verset 27, nous présente l'hétérosexualité comme le modèle de mariage voulu par Dieu. Le modèle de mariage voulu par Dieu. La première chose, quand Dieu parle de l'homme, la première chose que la Bible dit de l'humain, c'est qu'il est mâle et femelle. Il est homme et femme. Le modèle que la Bible nous laisse donc dans le cadre du mariage selon Dieu, c'est celui qui est basé sur l'hétérosexualité. L'hétérosexualité. Les termes homme et femme renvoient donc à la différence. Une différence anatomique hein, qui touche en quelque sorte au physique. Une différence ontologique qui touche aussi à la nature ou à l'identité sexuelle. Une différence relationnelle ou même procréationnelle. L'homme qui est prédisposé à donner de la semence et la femme à la recevoir. Impossible, frères et sœurs, d'inverser les rôles. François Muson, un philosophe et théologien catholique français, dans son article « Amour et altérité à l'heure des discours sur le genre », écrit, je cite, « La différence entre l'homme et la femme se manifeste dans son évidence la plus simple. Elle est ce qui se voit en premier, tout de suite. C'est ce qui saute aux yeux. » Et il continue en disant que cette différence est palpable, elle est irrécusable. Cette différence nous précède et nous traverse tout entier. Et Karl Barth a de conclure, parlant de cette différence, il dira, c'est une différence qui ne peut s'abolir. On ne peut pas l'abolir. Chacun de nous est né de la différence. Chacun de nous est fruit de l'union de deux êtres de sexe opposé. Le fondement biblique donc du mariage demeure l'hétérosexualité. Et c'est bien ce que Jésus rappelle dans notre texte quand il dit au commencement, Dieu créa l'être humain, homme et femme. En répondant donc à cette question, frères et sœurs, c'est pourtant contre ce fondement-là que notre siècle s'est aujourd'hui légué. C'est contre ce fondement que notre société s'est aujourd'hui levée. Le refus ou l'abolition de la différence sexuelle, la lutte pour la négation du genre constituent aujourd'hui les principales attaques contre l'institution du mariage. Et j'ai peur parce que ces attaques tendent complètement à éliminer le mariage. Le chrétien, malheureusement, se trouve aujourd'hui pris, il se trouve piégé dans cet engrenage, il se trouve la bouche complètement ou quasiment fermée. Malgré la consécration de la liberté d'expression, mais les chrétiens se voient refuser de donner leur point de vue sur les questions du genre. C'est des questions du genre. Un exemple, hein? C'est celui de ce jeune homme qu'on appelle Josh, hein? Josh Alexander. Josh Alexander est un jeune lycéen canadien qui s'est fait virer de son école pour avoir donné son opinion en tant que chrétien sur la question du genre. Non seulement il s'est fait virer, mais il a aussi été arrêté parce qu'il a donné, et ça s'est passé au Canada, dans une école catholique. Écoutez son témoignage. J'ai dit qu'il n'y a que deux genres et que l'homme naissait homme et femme, et cela m'a valu des ennuis. Donner un avis contraire aujourd'hui sur la question du genre, c'est devenir l'ennemi de la société. L'ennemi de la société. Le plus grand mal aujourd'hui, en fait, c'est que le combat féministe n'est plus contre le sexisme. Le sexisme qui est cette attitude de discrimination fondée sur le sexe. Mais le combat aujourd'hui féministe, c'est plutôt contre l'hétérosexisme. C'est contre la norme hétérosexuelle. On se souvient, n'est-ce pas? On se souvient de Simone de Beauvoir avec sa célèbre formule. On ne naît pas femme, mais on le devient. On le devient. Ce qui était visé in fine par cette formule de Simone de Beauvoir, c'est en fait le rejet de la nature. Le rejet de la nature, c'est ce que Dieu donne. Mais ce n'est pas que le rejet de la nature, c'est aussi le rejet de la culture. En parlant de culture ici, je veux faire référence à la morale, à l'éthique chrétienne. C'est le rejet de ces choses-là qui est visé par cette formule-là. Et plus tard, avec le mouvement cœur, c'est la différence sexuelle qui va être niée au profit de quoi? Des orientations sexuelles diverses. Les orientations sexuelles diverses. Bien-aimés frères et sœurs, au-delà du genre, au-delà de la nature, au-delà de la culture, c'est en fait l'identité de l'espèce humaine même qui se trouve aujourd'hui mise à mal par ces attaques contre la norme biblique, l'identité même de l'être humain. L'homme est en train, en ce moment, de déconstruire ce que Dieu a construit, mais ce qui constitue une réelle menace pour notre identité en tant qu'être humain, en tant qu'espèce humaine. Si nous ne sommes plus ni homme, ni femme, mais qui sommes-nous alors? Qui sommes-nous en définitive? Est-ce que nous sommes des erreurs de parcours? Ou est-ce que nous sommes simplement des choses? Qui sommes-nous? Si je ne suis pas un homme, qui suis-je? Vous savez, c'est tellement important de répondre à cette question parce que c'est la base de tout mécanisme de décision. Tout mécanisme de décision. Si je ne sais pas qui je suis, ben je ne sais pas non plus ce que je veux. Et si je ne sais pas ce que je veux, ben qu'est-ce qui va désormais diriger ma vie? Qu'est-ce qui dirigera ma vie? Mais ce ne sera plus la volonté qui va diriger ma vie, mais ce serait plutôt l'envie ou le désir qui va diriger ma vie. Je me laisserai simplement entraîner par mes désirs. Et comme nous le savons, les désirs sont souvent passagers, n'est-ce pas? Les désirs changent. Et les désirs ne sont pas forcément tous bons. Tous bons. La déconstruction de l'œuvre de Dieu provoque en définitive une perte de repères. Regardez aujourd'hui notre société. Regardez les jeunes. Et vous constaterez qu'ils sont totalement en perte de repères. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ni hommes, ni femmes. Qui sommes-nous? Et vous savez, ce fait d'avoir, de perdre des repères, mais ça conduit au mal-être. Et le mal-être va en quelque sorte être la source de plusieurs maux aujourd'hui. L'anxiété, le stress, la dépression, et ça peut même conduire jusqu'au suicide. Je regardais il n'y a pas longtemps, mais le suicide fait partie de la deuxième cause de mort aujourd'hui en France pour les jeunes de 12 à 24 ans. Simplement parce qu'ils n'ont plus de repères. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Pouvons-nous entendre la voix du Seigneur qui nous dit que l'homme ne déconstruit pas ce que Dieu a construit? Après avoir présenté le mariage comme l'hétérosexualité comme modèle biblique du mariage, ben on voit le Seigneur Jésus-Christ présenter la sexualité, le mariage comme cadre de la sexualité dans ce texte que nous avons lu ce matin. Et il cite effectivement Genèse chapitre 2, verset 24, le texte fondateur du mariage. Et l'intention du Seigneur en citant ce texte était donc de nous expliquer pourquoi l'homme se marie. Pourquoi l'homme doit quitter sa famille, ses parents, pour se marier? Ce texte nous donne la cause ou le fondement du mariage. Mais c'est en fait offrir à l'homme le plus beau cadeau qui puisse exister. Ce beau cadeau, c'est la sexualité. Mais le Seigneur va plus loin. C'est offrir un cadre à cette sexualité, à ce beau cadeau, la sexualité. Il est vrai que l'hétérosexualité présuppose le mariage, mais elle n'est pas encore le mariage. Il ne suffit pas d'être homme et femme pour dire qu'on est marié. Non. Non. Le mariage, proprement dit, va n'intervenir qu'au moment où Dieu conduit à l'homme la femme qu'il a formée de son côté. On se souvient de Genèse chapitre 2, verset 22 à 24. C'est donc Dieu qui donne la femme en mariage. Un mariage à l'homme. Et le mariage intervient au moment où l'homme va dire le oui de l'engagement, au moment où l'homme va reconnaître enfin la femme comme os de ses os et chair de sa chair. Et cet engagement public, ce oui public de l'engagement du mariage, ben il va être dit devant le Seigneur, le Dieu lui-même qui était le témoin. Et il me semble que c'est à ce moment que l'alliance du mariage va éventuellement avoir lieu. Il s'agit bien d'une alliance tripartite, une alliance entre les deux partenaires, mais aussi une alliance avec Dieu lui-même. Ce n'est qu'après que le texte nous dit « L'homme quittera ses parents pour s'attacher à sa femme afin de devenir une seule chair ». Bien-aimés dans la foi, après avoir créé l'humanité en homme et femme, le mariage est ce que Dieu a voulu pour l'homme. Le mariage est ce que Dieu a voulu pour l'homme. Dieu définit donc un cadre à la sexualité. Et ce cadre-là, c'est le mariage. Le mariage est le seul cadre légal, bibliquement parlant, à la sexualité. En dehors du mariage, la sexualité devient un péché. Elle devient un péché. En tout cas, c'est ce que Genèse chapitre 2, verset 24 nous dit. Ce texte va être repris plusieurs autres fois dans l'ensemble de la Bible comme formule clé pour définir le mariage. Et les deux deviendront une seule chair. Matthieu chapitre 19, verset 5, Marc chapitre 10, verset 7 que nous avons lu aujourd'hui, Éphésiens chapitre 5, verset 31. Le mariage est de ce fait une institution de Dieu. Nous l'avons déjà dit. Le mariage est marqué par le sceau de Dieu. Il ne relève donc pas de l'évolution sociale. Le mariage ne relève pas de la volonté de l'homme. Au contraire, il existe bien avant même la fondation, je pourrais dire, bien avant que les gouvernements ne soient mis en place. Dieu demeure le concepteur du mariage. C'est donc lui qui connaît le plan qu'il a prévu pour le mariage. Et sa conception du mariage, c'est d'abord l'hétérosexualité, c'est ensuite la sexualité dans le cadre exclusif du mariage. C'est dire que les sexualités libres et multiples ne sauraient entrer dans le cadre voulu par Dieu pour l'homme. Non, au contraire. Le but premier, vous le savez, de la promotion, de l'affirmation des sexualités multiples, c'est quoi? Le but premier, c'est l'abolition et la déconstruction du cadre formel voulu par Dieu pour la sexualité. Voilà le but qui est aujourd'hui visé. Oui, aujourd'hui, le sexe n'a plus de cadre formel. Tous les cadres sont désormais possibles. Tous les cadres. Et si tous les cadres sont désormais possibles, ben nous vivons dans un état de confusion totale. Un état de confusion qui a cependant un nom. Ce nom, c'est en fait le chaos. Nous vivons dans un chaos total. Nous vivons dans un tohu-bohu total. Or, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et ce qu'il veut, c'est que ses enfants puissent aussi, sa création puisse aussi vivre dans l'ordre. Dans l'ordre. Après avoir posé les bases bibliques du mariage, le Seigneur Jésus peut enfin répondre à la question que lui posent les pharisiens. Il dira au verset 8, au verset 9, « Mais ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Pour Jésus-Christ donc, le modèle biblique du mariage demeure l'indissolubilité du lien conjugal. L'indissolubilité du lien conjugal. Le mariage est une alliance. Je mets l'accent sur le mot alliance parce que l'alliance ne se rompt pas facilement. Ce n'est pas un contrat auquel on peut mettre un terme à suivant notre volonté. Non. J'aime souvent dire aux jeunes que je prépare pour le mariage, quand vous êtes en train de préparer votre mariage, mais vous demandez la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Vous vous asseyez, vous priez ensemble, vous demandez même le soutien de l'église, le soutien du pasteur, chacun est en train de prier. Mais quand vous voulez divorcer, est-ce que vous demandez aussi la volonté de Dieu en prière? Est-ce que vous venez devant l'église et devant le pasteur pour dire, pasteur, priez pour nous pour qu'on divorce? Est-ce que vous avez consulté Dieu pour pouvoir le faire? Est-ce qu'on a consulté Dieu? Non, le mariage est une alliance dans laquelle l'homme et la femme s'engagent pour la vie. Quand un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, le Seigneur Jésus nous dit, Dieu les unit, Dieu les unit. Et vous savez, le verbe s'attacher montre qu'il ne peut s'agir d'une rencontre passagère, mais d'un lien permanent. Une alliance qui ne doit pas être rompue sinon que par la mort. Sinon que par la mort, cette alliance, cette union, elle est pour la vie entière, nous souligne le Seigneur Jésus-Christ quand il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'expression « une seule chair » renvoie aussi à l'indissolubilité du lien conjugal. Il ressort donc clairement que l'union entre l'homme et la femme ne répond pleinement à l'intention divine de Dieu que quand les deux partenaires s'engagent pour la vie. Pour la vie. L'alliance du mariage est fondée sur une promesse réciproque, une parole donnée librement, mais qui lie les deux conjoints l'un à l'autre. Et cet engagement demande de chacun des époux fidélité et persévérance dans la construction de la vie commune, une ferme volonté de tenir à la parole qui a été donnée. D'ailleurs, le mariage est l'image, n'est-ce pas, que Dieu se sert souvent dans la Bible pour illustrer l'alliance entre lui et son peuple, le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Une alliance qui, malgré l'infidélité du peuple d'Israël, demeure, parce que Dieu trouve toujours cette force de pouvoir pardonner à son peuple. Son peuple trouve toujours grâce à ses yeux. Nous voyons donc dans ce texte que nous avons lu ce matin que le divorce est une altération de l'intention divine du mariage. C'est une altération de l'intention divine du mariage. C'est un refus de l'homme ou par l'homme de la volonté de Dieu pour le mariage. Quand les détracteurs de Jésus-Christ lui sortent l'assouplissement que Moïse semble donner à cette question, Jésus reste droit dans ses bottes. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est à cause Oui, il le dit clairement. Hein. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ces commandements pour vous. À cause de la dureté de votre cœur. Sinon, ajoute-t-il dans Matthieu chapitre 19, verset 8, au commencement, il n'en était pas ainsi. Comme pour dire, le plan premier de Dieu pour le mariage, en fait, le divorce ne fait pas partie. Il n'y a pas de divorce. Bien-aimés frères et sœurs, le divorce serait alors une anomalie provoquée par le refus de l'homme de la volonté première et parfaite de Dieu en ce qui concerne le mariage. Et le mot grec « sclérocardia » traduit par « dureté des cœurs ». J'ai essayé de trouver un meilleur mot, mais je n'ai pas trouvé. La sclérose du cœur, c'est en fait ce que ce mot signifie. Hein. La sclérose du cœur, ben, il signifie simplement l'incrédulité. L'incrédulité. Sclérocardia implique ici une rébellion. Une rébellion, il vise quelqu'un qui refuse d'être réceptif, obéissant à la voix de Dieu. C'est en fait un cœur endurci, complètement étranger à la grâce et à l'amour même de Dieu. Et c'est cette sclérose de cœur qui serait à l'origine de l'autorisation du divorce. Cette sclérose de cœur viserait, dans le cadre du mariage, ce que je pense en tout cas, le manque de pardon. Si Moïse a permis que le lien conjugal soit dissous, c'est parce que le cœur de l'homme n'est pas disposé à pardonner. C'est parce que le cœur de l'homme n'est pas disposé à pardonner. Moïse ne voulait pas faciliter le divorce. Non, au contraire. La formalité qu'il prescrit a un double but. Le premier but, c'est en fait éviter au couple en souffrance de plus grands maux. Quand deux personnes se séparent, mais ça devient très dur pour les deux. Ou quand deux personnes ne peuvent plus conjuguer le même verbe, ça devient très dur. Il y a le risque de destruction mutuelle, de violence dans le couple. Et dans le contexte juif à l'époque, ben, voir une femme s'en aller, l'époux pouvait porter plainte hein, ou aller la dénoncer pour adultère. Et lorsqu'on la dénonçait pour adultère, vous savez la sanction qui pouvait s'en suivre, n'est-ce pas? La lapidation. Et donc, quand ici, Moïse autorise il ouvre cette brèche, c'est effectivement pour éviter, protéger quelque part la femme. En fait, ce n'était même pas le sacrificateur qui prononçait le divorce. Hein. C'était l'époux lui-même qui lui-même prononçait son divorce. C'est lui qui s'asseyait, il écrivait ce certificat de divorce qu'il remet à sa femme et le sacrificateur n'avait qu'à constater. Mais ce n'était pas au sacrificateur de décider de leur divorce. Moïse va faire une concession pareille hein, dans le cadre de la vengeance. Vous vous souvenez, hein, cette fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Cette loi était donnée pourquoi? Mais pour empêcher l'escalade de la violence dans la vengeance, n'est-ce pas? Quand, à l'époque, quelqu'un cassait l'œil de l'autre, mais pour se venger, hein, l'autre partie pouvait venir casser les deux yeux, je veux dire. Quand quelqu'un cassait la jambe de l'autre, mais sa famille pouvait venir casser les deux jambes et même les deux bras, etc. Moïse dit, mais, vu que vous n'êtes pas prêt à pardonner, vous voulez rendre, mais que ce soit que la vengeance soit donc proportionnelle, œil pour œil, dent pour dent. L'autre but, c'était en fait pour éviter aussi, hein, cette lettre constituait une entrave véritable même au divorce. Le texte que nous avons invoqué tout à l'heure, hein, Deutéronome chapitre 24, fournit une précieuse information à propos. Moïse dit, ben, on l'a déjà dit, si un homme voit qu'il ne trouve plus faveur à sa femme, ben, écoute, il peut la renvoyer, il peut lui donner une lettre et puis voilà, la renvoyer. Au verset 2, on lit, après être parti de chez lui, cette femme se remarie avec un autre homme. Supposons que ses second mari cesse aussi de l'aimer, qu'il rédige à son tour une lettre de divorce, la lui remette et la renvoie de chez lui. Ou supposons qu'il meure. Dans ces cas, au verset 4, le premier mari qui l'a renvoyé n'aura pas le droit de la reprendre pour femme. Il n'aura pas le droit de la reprendre. Le but ici de cette permission serait donc d'éviter des abus dans le cadre du divorce. C'était d'éviter la banalisation du mariage, d'empêcher des répudiations faciles. L'homme pouvait envoyer et après reprendre. Moïse dit non. Réfléchissez avant de renvoyer votre femme. Une fois que vous l'avez renvoyée, ce serait définitif. Quoi. Vous ne reviendrez plus dessus. Donc, l'objectif, c'était donc d'entraver, constituer une entrave au divorce. Vous l'aurez noté, la clause d'exception à laquelle Jésus fait référence. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 9, clause à laquelle Moïse aussi en fait référence en la définissant comme quelque chose de honteuse ou de nudité de choses, devrait s'entendre sur le prisme de ces durcissements du cœur de l'homme, de ce manque de pardon de l'homme. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu, je le dis encore, Dieu lui-même nous laisse un modèle à imiter. Malgré les multiples infidélités du peuple d'Israël, dans la Bible, Israël est souvent appelé des prostituées. Dans la Bible, Israël est souvent appelé des femmes adultères. Mais malgré l'infidélité, les multiples infidélités du peuple d'Israël, Dieu continue toujours de témoigner son amour à ce peuple. Jamais Dieu n'a rompu son alliance avec le peuple d'Israël. Il a d'ailleurs toujours fait grâce. J'ai trouvé ce texte de Osée, chapitre 2, versets 16 à 19, assez intéressant. Supposons qu'un homme... Voilà, Osée, chapitre 2. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je vais la reconquérir, l'amener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Agor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout autant de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. Puis, pour toujours, je la fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi la fidélité. Et tu connaîtras l'Éternel. Tu connaîtras l'Éternel. Ce qui me touche dans ce texte, c'est quand le Seigneur dit, quand Dieu dit, je vais la reconquérir. Je vais la reconquérir. Malgré l'infidélité de mon épouse qui est Israël, moi, je vais la reconquérir. Je vais la chercher au désert et je vais parler à son cœur pour la ramener. Bien-aimé, dans la gestion des crises, Dieu désire que la grâce et le pardon inspirent nos actions. Telle est sa volonté pour nous. Malheureusement, comme pour les Juifs au temps de Moïse, ce qui caractérise aujourd'hui l'homme de ces siècles, c'est aussi la dureté du cœur. Le dénominateur commun à tous les hommes demeure le péché. Un cœur de pierre, toujours fermé à l'appel de Dieu quant au pardon. Combien de fois n'avons-nous pas déjà entendu « je peux tout pardonner » sauf ça? Combien de fois? Combien de fois n'avons-nous pas déjà entendu « je peux tout accepter » sauf ça? Mais Seigneur, écoute, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout, sauf pardonner cette faute, sauf pardonner cette infidélité. Donc, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Quelle est la volonté de Dieu pour notre couple? Quelle est la volonté du Seigneur pour notre couple? Très bientôt, mon frère Laurent va se marier et je suis heureux de savoir que les choses se passent très très bien pour eux. Merci Seigneur. Il pourrait se poser la question ce matin, mais quelle est la volonté de Dieu pour ces couples que nous sommes sur le point de former aujourd'hui? Que faire? Parce que vivre ensemble, ce n'est toujours pas facile. Soyons réalistes. Mais que faire en cas de conflit? Que faire en cas de désaccord? Que faire lorsqu'il y a faute? Ou même lorsqu'il y a infidélité? Mais Paul nous donne un indice dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. Vous connaissez ce texte. Même si des fois, lorsque une faute grave arrive, on ne veut pas entendre parler de ce texte-là, n'est-ce pas? 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 6, l'amour pardonne. Quelqu'un peut terminer? L'amour pardonne. Ah, on ne veut pas dire. c'est tellement dur. L'amour pardonne tout. Je ne sais pas si c'est un tout exclusif ou si c'est un tout global. L'amour pardonne tout. Est-ce une licence accordée ici à l'infidélité, à l'adultère? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bien-aimé, eh bien, le même texte qui dit « L'amour pardonne tout », en Corinthiens chapitre 13, dit au verset 6, dit juste avant, au verset 5, hein, que l'amour ne fait rien d'inconvénient. Lorsqu'on aime, on ne fait rien d'inconvénient. Et on voit aussi le Seigneur qui condamne avec fermeté l'infidélité. Ce n'est pas une licence donnée à l'infidélité. Dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28, hein, le Seigneur dira, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désirs, il a déjà commis adultère avec elle. » Le Seigneur condamne l'infidélité. Mais c'est Dieu qui châtie le péché. Il est le même qui fait grâce aux pécheurs. Il est le même qui fait grâce aux pécheurs. Est-ce facile de pardonner? Ben, laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Mais est-ce possible? Je vous dirai oui, par la grâce de Dieu. C'est bien possible. Je termine par cette histoire qu'on m'a racontée, hein, l'histoire d'un couple, médecin avec son épouse qui vivait dans un petit village, qui s'entendait très très bien et qui constituait véritablement un modèle pour ce village-là. En tout cas, tous ceux qui les voyaient ensemble étaient tellement heureux de voir ces couples tout le temps ensemble. Voilà qu'un jour, l'époux va au travail et l'épouse reçoit malheureusement son amant à la maison. Et le monsieur, il se rend au travail, il se rend compte qu'il a oublié ses lunettes pharmaceutiques à la maison et il ne peut pas travailler sans ces lunettes-là. Il prend la voiture, il revient à la maison et il trouve son épouse et son amant dans le lit. Et quand il ouvre la porte, il les voit et il referme la porte en disant « Oh, excusez-moi !» Il referme tranquillement la porte. Il ressort, il prend sa voiture, il passe acheter de nouvelles lunettes et il va au travail, passe toute la journée à travailler. Et le soir, le temps de rentrer à la maison, il passe acheter de jolis cadeaux pour son épouse. Il vient avec ses cadeaux à la maison et « Chérie, tu es là, comment t'as passé la journée? Regarde ce que je t'ai envoyé. » Il donne tout à son épouse. « Est-ce que le repas, il est prêt? » Il prend son repas, il mange, il se lave, il se couche et puis voilà. Le lendemain, il se lève, « Chérie, que Dieu te garde. Bonne journée. Hein. » Il prend sa voiture, il repart au travail. Et en entrant le soir, il passe encore acheter des cadeaux. Hein. Il vient, il donne à son épouse, « Voilà ce que je t'ai envoyé. Comment ça va? Comment ça a été ta journée? » etc. Et des jours. Ben un jour, il va au travail, son épouse prend toutes ses affaires et elle s'en va chez ses parents. Alors ses parents, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu viens comme ça? Ils appellent son époux pour dire, ton épouse nous a trouvés ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peut-être qu'elle a oublié de me dire qu'elle avait envie de vous rencontrer, de passer un peu de temps avec vous. Ben, je passerai le soir, je passerai chercher ma femme pour qu'on revienne à la maison. Le monsieur descend du travail, il vient chez ses beaux-parents, il passe du temps avec eux. Et après, il demande à son épouse de rentrer avec elle à la maison. La femme dit, non, je n'entre pas avec toi. Ah ben d'accord, ben je vois que tu as encore envie de rester un peu avec tes parents. Il n'y a pas de souci, hein. Je te laisse passer du temps avec tes parents. Le moment où tu seras prête à rentrer, tu me fais signe. Et puis voilà, je viendrai te chercher. Et le monsieur, il se retourne à la maison. Cette situation continue à travailler son épouse au point où elle tombe dans une profonde dépression. Au point de devenir même presque folle. Et ses beaux-parents, qui étaient très sages, ont compris ce qui s'est passé. Ils ont appelé le monsieur et lui ont dit, on ne sait pas les détails de ce qui existe entre ton épouse et toi, mais on sait qu'il y a un profond désaccord entre vous. En tout cas, ton épouse va mal. Et le monsieur revient tranquillement, il trouve sa femme là où elle était, il entre chez elle et puis il lui dit, toi et moi, on sait ce qui s'est passé. Mais je t'ai pardonné depuis ce jour-là. J'ai voulu simplement que tu saches que ce que tu as fait est grave. Lève-toi et allons à la maison. Et son épouse est redevenue normale. La maladie est passée. Elle est repartie avec son époux à la maison. C'est une histoire qui me bouleverse personnellement, parce que quelque part, je me dis, ben, si c'était moi qui avais trouvé mon épouse dans le lit avec quelqu'un d'autre, quelle aurait été ma réaction, hein, humainement parlant? Est-ce que ça fait mal? Mais oui. Est-ce que nos péchés font mal au Seigneur? Mais naturellement. Est-ce qu'il est prêt à nous pardonner? Mais naturellement. Cet homme offre une grâce, une autre grâce à sa femme, de redevenir celle qu'elle a été. Comme dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure, hein, le Seigneur qui dit, j'irai la reconquérir, mon épouse infidèle. J'irai la reconquérir et je la ramènerai à la maison. Je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Que retenir de ce texte de ce matin? Est-ce que ça passe encore? Oui, ben voilà ce qu'il faut retenir, bien-aimés frères et sœurs. Le mariage vient de Dieu. Le mariage, c'est la chose même de Dieu. C'est lui qui l'a conçu. Et sa conception du mariage demeure un mariage hétérosexuel, où la différence est reconnue et où la différence est acceptée. Le mariage, bien-aimé, constitue le cadre voulu par Dieu pour la sexualité. Ce n'est pas ce que le monde nous propose aujourd'hui qui constitue le plan de Dieu. Le mariage est une alliance indissoluble. Et on voit donc que le divorce et toute autre cause ne sont que l'altération du plan premier que Dieu a eu pour le mariage. Et à nous, peut-être, de faire attention à ce match, je dirais même à ce calcio aujourd'hui qui est en train de se jouer en ce qui concerne la conception que l'humanité a du mariage et de la sexualité. Quelle position prenons-nous face à cette situation aujourd'hui? Quel rôle avons-nous à jouer en tant qu'enfants de Dieu devant ces différentes attaques de cette institution de Dieu? Quelle attitude devons-nous adopter aujourd'hui? Que le Seigneur nous aide à répondre à toutes ces questions avec sagesse. Amen. Seigneur, je veux te dire grand merci parce que tu nous as fait un très beau cadeau. Ce cadeau, c'est la sexualité. Et tu as voulu, Éternel, oui, que cette sexualité, l'homme puisse s'épanouir dans le cadre du mariage. Mais voici qu'aujourd'hui, Éternel, mon Dieu, mon roi, ben, l'homme, malheureusement, est en train de déconstruire ce que toi, tu as construit. Et tout cela se passe sous nos yeux. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force de pouvoir être tes témoins et de pouvoir, Éternel, défendre cette conception, ce plan, ce projet, Éternel, que toi, tu as pour le mariage. En le vivant d'ailleurs, et d'abord, nous-mêmes, dans nos différents foyers, Dieu Tout-Puissant, mais aussi, Éternel, en pouvant avoir le courage de pouvoir témoigner et d'enseigner ce plan que tu as pour le mariage. Merci, Seigneur, de nous équiper, de nous garder, de nous protéger. Que la gloire, l'honneur et la magnificence soient à toi, au siècle des siècles. Je prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.